41. Il abandonne le soin de l'Empire. Revenu dans son île, il abandonna tellement le soin de la République qu'à dater de cette époque, il ne compléta jamais les décuries des chevaliers et qu'il ne fit aucune mutation ni parmi les tribuns des soldats, ni parmi les commandants de province. Il laissa l'Espagne et la Syrie pendant quelques années sans lieutenant consulaire. Il permit aux Parthes d'envahir l'Arménie, aux Daces et aux Sarmates de ravager la Messie, et aux Germains, les Gaules, à la grande honte et au grand péril de l'Empire. 42. Sa passion pour le vin. À la faveur de la solitude, et pour ainsi dire, loin des regards de la cité, il donna libre carrière à la fois à tous les vices qu'il avait jusque-là mal dissimulés. Je les ferai connaître tous dès leur origine. À ses débuts militaires, sa grande passion pour le vin le faisait appeler Biberius au lieu de Tiberius, Caldius au lieu de Claudius, Méro au lieu de Néro. Plus tard, quand il fut empereur, il passa 2 jours et 2 nuits à table avec Pomponius Flaccus et Lucius Pison, dans le temps même où il travaillait à la réforme des mœurs. Aussitôt après, il donna à l'un le gouvernement de la Syrie et à l'autre la préfecture de Rome. Dans ses lettres, il les appelait ses amis les plus chers, et de toutes les heures. Il avait réprimandé dans le Sénat Cessius Gallus, vieillard libertin et prodigue, autrefois noté d'infamie par Auguste. Peu de jours après, il lui demanda à souper, à condition qu'il ne changerait rien à ses habitudes et que le repas serait servi par des jeunes filles nues. Les plus nobles candidats se présentaient pour la questure. Il préféra le plus inconnu, parce que sur son défi, dans un festin, il avait vidé son amphore. Il donna 200 000 sesterces à Acellius Sabinus, pour un dialogue où le champignon, le bec-figue, l'huître et la grive se disputaient la prééminence. Enfin, il institua une nouvelle charge, l'intendance des plaisirs, et il la confia à Tullius Caesonius Priscus, chevalier romain. 43. Ses débauches. Dans sa retraite de Caprée, il avait imaginé des chambres garnies de bancs pour des obscénités secrètes. C'est là que des groupes de jeunes filles et de jeunes libertins, ramassés de tous côtés, et les inventeurs de voluptés monstrueuses, qu'il appelait « spintries », formaient entre eux une triple chaîne et se prostituaient ainsi en sa présence pour animer par ce spectacle ses désirs éteints. Il avait orné divers cabinets de peintures et des images les plus lascives. Il avait aussi placé les livres d'Éléphantis, afin que nulle infamie ne manquât de modèles ordonnés par lui. Les bois et les forêts n'étaient plus que des asiles consacrés à Vénus, où l'on voyait, de toutes parts, la jeunesse des deux sexes, dans le creux des rochers et dans les grottes, présentant des attitudes voluptueuses en costume de nymphe et de sylvain. Aussi, en jouant sur le nom de l'île, appelait-on communément Tibère Caprineus. 44. Ses débauches, suite. Il poussa encore plus loin ses turpitudes. La pudeur empêche autant d'y croire qu'elle répugne à le dire ou à l'entendre raconter. On suppose qu'il accoutumait des garçons dès l'âge le plus tendre, qu'il appelait ses petits poissons, à se tenir et à jouer entre ses cuisses pendant qu'il nageait et à l'exciter de leur langue et de leur morsure. On prétend encore qu'il donnait à téter ses parties naturelles ou son sein, à des enfants déjà forts, quoique non sevrés, genre de débauche auquel son âge et son goût le portaient le plus. Aussi, quelqu'un lui ayant légué le tableau de Parasius, où Atalante rendait à Méléagre cet ignoble service, le testament portant pour alternative que, si le tableau lui déplaisait, il acceptait à la place 1 000 000 de sesterces, il ne se contenta pas de choisir le tableau, il le mit dans sa chambre à coucher. On dit qu'un jour, en offrant un sacrifice, épris tout à coup de la beauté de celui qui lui présentait l'encens, il attendit à peine que la cérémonie fût achevée pour l'entraîner à part et lui faire violence, ainsi qu'à son frère, joueur de flûte. On ajoute que, bientôt après, il leur fit casser les jambes, parce qu'ils se reprochaient mutuellement cette infâme complaisance. 45. Ses débauches, suite. Il ne se jouait pas moins de la vie des femmes, et même des plus illustres. comme on put s'en convaincre par la mort de Malonia, qui, malgré toutes les séductions, s'était constamment refusée à ses désirs. Il la fit accuser par des délateurs, et ne cessa pendant l'accusation de lui demander si elle ne se repentait pas. Mais, abandonnant l'audience, elle se sauva chez elle, et se perça d'un glaive, après l'avoir traité à haute voix de vieillard impur, grossier et dégoûtant. Aussi applaudit-on avec enthousiasme ces mots de l'épilogue d'un Atellane, aux jeux qui furent célébrés peu de temps après. Un vieux bouc lèche les parties naturelles des chèvres. 46. Son avarice. Chiche et avare, jamais il ne donnait de salaire à ceux qui l'accompagnaient dans ses voyages ou dans ses expéditions. Il se bornait à leur distribuer des vivres. Il ne fit qu'une seule libéralité en sa vie. Encore, ce fut aux dépens de son beau-père. Il partagea toute sa suite en trois classes, selon le rang, et donna à la première 600 000 sesterces, à la seconde 400, et 200 à la troisième, qu'il appelait non des amis, mais des Grecs. 47. Il fuit les occasions d'être libéral. Son règne ne fut signalé par aucun grand monument. Il laissa imparfait, après bien des années, les celles qu'il eut entrepris, le temple d'Auguste et la restauration du théâtre de Pompée. Il ne donna pas non plus de spectacle, et n'assista que fort rarement à ceux que donnaient les autres. Il craignait qu'on ne lui demandât quelque chose, surtout depuis qu'il avait été forcé d'affranchir le comédien Accius. Il soulagea la misère de quelques sénateurs, mais pour que cet exemple ne tirât pas à conséquence, il déclara qu'il ne donnerait désormais de secours qu'à ceux que le Sénat jugerait en mérité. En sorte que la plupart gardèrent le silence par honte ou par retenue. Entre autres, Hortalus, petit-fils de l'orateur, Quintus Hortensius, qui, avec une fortune très médiocre, s'était marié pour plaire à Auguste et se voyait père de 4 enfants. 48. Quelques-unes de ses libéralités. Il ne fit de largesse publique que 2 fois. L'une, lorsqu'il mit à la disposition du peuple 100 000 000 de sesterces pour 3 ans sans intérêt, et l'autre, lorsqu'il indemnisa les propriétaires des quartiers incendiés sur le mont Cellius. Il fut contraint à la première libéralité, dans une grande disette d'argent. Le peuple demandait du secours, parce que Tibère, ayant ordonné par un sénatus consulte que les prêteurs mettraient en fonds de terre 2/3 de leur patrimoine, et que les débiteurs paieraient les 2/3 de leurs dettes en argent comptant. L'exécution de cet arrêt devenait impossible. La seconde largesse avait pour but d'adoucir les malheurs du temps. Il attacha une telle importance à ce bienfait qu'il voulut que le mont Cellius changeât de nom et s'appela le mont Auguste. Après avoir fait doubler les legs qu'Auguste avait fait aux soldats, il ne leur donna plus rien, excepté 1 000 sesterces à chaque prétorien, pour ne s'être pas livré à ces gens. Quelques présents aux légions de Syrie, parce qu'elles étaient les seules qui n'eussent pas placé l'image de ces gens parmi leurs enseignes. Il accorda très peu de congés aux vétérans, espérant que la vieillesse amènerait la mort, et que la mort lui profiterait. Il n'accorda aucune libéralité aux provinces, si ce n'est à l'Asie mineure, dont un tremblement de terre avait renversé plusieurs villes. 49. Ses rapines. Il passa peu à peu de l'avarice à la rapine. On sait qu'il fit mourir de frayeur et de chagrin Cneius Lentulus Augure, qui jouissait d'une grande fortune, et qu'il l'obligea à l'instituer son seul héritier. Il est également notoire qu'il condamna Lépida, l'une des femmes les plus nobles, pour plaire à Quirinus, homme consulaire qui était fort riche et sans enfants. Depuis 20 ans, ce Quirinus avait répudié Lépida, et il l'accusa d'avoir autrefois voulu l'empoisonner. Tibère confisqua les biens des principaux habitants des Gaules, de l'Espagne, de la Syrie et de la Grèce, sur les calomnies les plus impudentes et les moins fondées, par exemple parce qu'ils avaient une partie de leurs biens en argent comptant. Un grand nombre de villes et de particuliers furent dépouillés de leur ancien droit d'exploiter les mines et d'être exemptes d'impôts. Enfin, Vonone, roi des Parthes, chassé par les siens et réfugié avec un riche trésor à Antioche, comme sous la sauvegarde du peuple romain, tomba victime de ses spoliations et de sa perfidie. 50. Sa haine contre son frère, sa femme et sa mère. Ses haines de famille se manifestèrent d'abord à l'égard de son frère Drusus, dont il révéla une lettre où ce jeune prince examinait avec lui comment il pourrait forcer Auguste à rétablir la liberté. Ensuite, il témoigna cette aversion à tous ses parents. Loin d'adoucir par la moindre attention l'exil de sa femme, Julie, il lui défendit de sortir de sa maison et de communiquer avec personne, quoique Auguste lui donnait une ville pour prison. Il la priva même du pécule que lui avait concédé son père et de ses revenus annuels, sous prétexte que le testament d'Auguste n'avait rien statué à cet égard. Sa mère Livie lui devint odieuse, comme une rivale de son pouvoir. Il se refusa ses assiduités et n'avait pour elle aucun entretien long et secret, de peur de paraître se conduire par ses conseils, qu'il suivait pourtant quelquefois mais avec peine. Il trouva fort mauvais qu'il eût été question, dans le Sénat, d'ajouter à ses titres celui de fils de Livie, comme on le nommait fils d'Auguste. Aussi ne voulut-il pas qu'elle fût appelée mère de la patrie, ni qu'elle reçût en public aucun honneur signalé. Il l'invita souvent à ne point se mêler d'affaires importantes qui ne conviennent point aux femmes, surtout depuis qu'il eut remarqué qu'elle était accourue à l'incendie qui avait éclaté près du temple de Vesta, et qu'elle avait encouragé au travail le peuple et les soldats, comme elle avait coutume de le faire du temps de son époux.